Il y a de ces lieux considérés comme sacrés depuis des millénaires, où les différentes civilisations vont construire successivement leurs temples ou leurs églises. Mais que se passe-t-il exactement dans ces endroits au taux vibratoire élevé? Comment cela fonctionne? Que pouvons-nous faire avec ces énergies puissantes? Bienvenue dans Hypnoconscience. J'ai jamais été un grand sensible aux énergies des lieux, ni porté à les utiliser, mais mon récent voyage en Angleterre sur d'anciens sites celtes m'a fait changer d'avis, mais vraiment. Pour nous permettre d'en connaître plus sur ces lieux énigmatiques, je reçois aujourd'hui Marie-Julie Caouette, géobiologue spécialisée dans les lieux sacrés. Comme d'habitude, je t'invite à partager autour de toi si tu penses que ça peut intéresser ou aider des gens. Je t'invite à t'abonner pour recevoir les notifications quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et je t'avise aussi que je suis maintenant sur YouTube. Donc, cette entrevue-là, si tu veux voir la binette à Marie-Julie ou voir la mienne, tu peux aller sur YouTube et taper Pascal Brousseau. Et je vais mettre aussi le lien de la chaîne en commentaire et en description de l'épisode. Alors, sur ce, bonne écoute de l'entrevue. Alors, sujet super intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai une invitée, Marie-Julie, que j'ai choisie à cause de ses formations en géobiologie, mais aussi à cause des voyages, ou je dirais de sa spécialisation dans les sites énergétiques sacrés. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là, cette émission-là aujourd'hui, c'est que j'ai vécu une expérience spéciale moi-même au mois de septembre où je suis allé en Angleterre. Sans avoir d'idées préconçues, je savais que les sites énergétiques, les sites sacrés, ça existait, mais j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. J'ai jamais eu cette grande sensibilité-là pour sentir la vibration ou ces choses-là. Par contre, je suis parti avec une intention précise et ce qui m'a fasciné, c'est qu'à mon retour, cette intention-là s'était vraiment matérialisée, installée, mais d'une façon que je qualifierais de complètement magique. Aller même jusqu'à un ancrage que j'avais depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que moi, me lever le matin, avoir un cadran pour me lever le matin, c'est impossible. J'ai même été en hypnose pour défaire ça, ça n'a pas fonctionné. Dès que je devais me lever tôt, avoir un cadran, je faisais de l'anxiété et je dormais pas de la nuit. Je devais prendre des fois des pilules pour arriver à dormir. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça a fonctionné, mais je suis revenu, puis d'un claquement de doigts, puis aucun problème, je suis capable de me mettre un cadran à 6 heures le matin, puis aucune anxiété, je me pose la tête sur l'oreiller à 10 heures et je dors. Donc, j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Marie-Julie Caouette. Donc, je vais te laisser te présenter.
Oui, bonjour. En fait, moi, ça fait plusieurs années que les sites sacrés, que autant la terre, les réseaux me fascinent, m'appellent. Je pourrais dire que ça fait partie de moi et c'est vraiment depuis toute jeune que j'ai un appel face à comment que la terre fonctionne. Toute petite, je prenais les baguettes de sourcier et j'essayais de trouver les sources d'eau, j'essayais de comprendre et ça faisait partie de moi. Et c'est vraiment avec le temps que j'ai voulu aller grandir dans ça, aller expérimenter davantage. Alors, j'ai suivi mes formations de géobiologie. J'ai voyagé sur plusieurs sites sacrés. J'ai organisé des voyages également spirituels, notamment en Inde. J'ai été également en Espagne, au Vietnam, en France, au Mont Shasta. Alors, dans plusieurs lieux où il y a des sites sacrés. à travers mes connaissances, mais à travers l'expérience. Parce que dans les livres, oui, on apprend, mais c'est vraiment à travers l'expérience qu'on comprend. Et c'est par ces moments, ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, que j'ai compris, que j'ai vu, comment que ça se passe, comment que ça se crée, parce que c'est très subtil, hein. Et dans la subtilité, des fois, on n'arrive pas nécessairement d'expliquer et on n'arrive pas à comprendre de manière très, très concrète. Alors, quand on ressent bien, on est capable par la suite de mieux le partager. Et c'est à travers tous ces voyages-là que bien j'ai créé également des formations pour mieux comprendre cela. Et je fais également des analyses de lieux, de maisons, de sites au Québec pour découvrir davantage les réseaux sacrés, les vortex. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là, de partager mes connaissances, de partager mon vécu également. Et c'est tellement un sujet extraordinaire, mais qui pique la curiosité également.
Oui, effectivement. Mais tu as parlé de faire ces lectures-là. Et moi, je me demande un peu comment tu les fais, ces lectures-là, et qu'est-ce qui fait que les anciens, parce que je veux dire, ces sites-là, on prend juste Stonehenge où je suis allé, on sait que ça existe depuis au moins 6000 ans. Parce que selon les recherches archéologiques autour, ils ont trouvé des choses, mais c'est possible que ce soit encore plus vieux que 6000 ans, puis que les gens résidaient pas autour à l'époque, mais venaient de beaucoup plus loin, on le sait pas. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là les ont trouvés, que ces sites-là sont restés là, et que même souvent, ce qu'on découvre, c'est que les autres civilisations, par la suite, continuaient de bâtir par-dessus. Ce qui avait été bâti s'écroulait, on rebâtissait toujours à la même place. Comment ils arrivaient à sentir ça ou à faire cette lecture-là?
En fait, à la base, les réseaux, on peut appeler les réseaux sacrés, on dit sur différents noms, le réseau sacré, le réseau solaire, le réseau global, c'est toute la même chose. Il y a différents noms qu'on appelle. Ces réseaux-là, bien, sont tous interreliés. Peut interrelier, en fait, la Terre, elle est comme nous. Elle a des chakras. Nous, notre corps humain, notre être a des chakras qui est notre centre énergétique, la circulation de nos énergies. Alors, la Terre a également des chakras. Et ces chakras, bien, sont tous reliés par des réseaux qu'on peut appeler davantage la ligne de Ley, le Ley Line. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La ligne de Ley, c'est une ligne qui est de communication d'un chakra à un autre, d'un site qui est hautement vibratoire à un autre. Alors, cette ligne de Ley qu'on peut appeler les faisceaux sanguins de la Terre, bien, circule pour permettre d'apporter un équilibre, une harmonie. Et c'est très important puisque ça permet d'équilibrer, de nourrir également tout l'environnement de la Terre, autant subtil qu'autant qui est plus matériel. Alors, ça nourrit autant les animaux, les êtres humains, les plantes, autant végétal, animal, minéral. Et tout ça pour dire que à l'époque, il y a des milliers d'années, les êtres étaient très connectés à leur sensibilité, étaient très connectés à la Terre. Alors automatiquement, quand tu te connectes à la Terre, bien, t'es capable par ton ressenti de suivre ces réseaux-là. Alors c'est des réseaux de communication qui se font autant télépathiquement, autant par son propre ressenti dans ses corps, dans ses chakras. Alors, quand tu es sur un point énergétique qui est hautement vibratoire, bien, tu vas le sentir à l'intérieur de ton corps. Tu vas le sentir à l'intérieur de tes chakras. Alors, tu en es guidé automatiquement. Et à l'époque, bien, les êtres humains qui y vivaient n'étaient pas autant dans la matérialisation, dans le monde moderne, dans l'extérieur, étaient beaucoup plus dans un ressenti, dans une connexion intérieure, alors qu'on appelle dans une communion avec eux-mêmes et une communion avec la nature. Alors, ces réseaux-là, Bien, c'est un réseau qu'on peut appeler les voies des ancêtres. Alors, quand on se connecte à ces réseaux-là, on se connecte à des esprits qu'on peut appeler l'esprit de la terre, qu'on peut appeler des communications d'ancêtres. Beaucoup de peuples allaient créer leur temple, leur lieu sacré, leur lieu de rituel sur ces points-là pour pouvoir autant avoir des informations, recevoir des messages, avoir des connexions télépathiques avec d'autres civilisations qui peuvent exister sur Terre comme ils peuvent être dans d'autres plans, qu'on peut appeler des plans cosmiques également, parce que ces réseaux-là, ce sont les seuls réseaux de la Terre qui sont du type cosmique. Il existe différents réseaux sur Terre, entre autres le réseau Hartmann, le réseau Curie, il y a différents réseaux qui ont été découverts, et ce sont des réseaux qui sont telluriques, qui sont créés à partir des champs magnétiques de la Terre. Mais ces réseaux-là sacrés, ce sont des réseaux cosmiques, alors qu'ils sont très subtils, qui sont reliés également aux champs du soleil, de toutes les ondes, toutes les rayons que le soleil projette quand on a des éruptions solaires.
Comme présentement, ça vient présentement semble-t-il qu'on est dans une période de grosse éruption solaire. Donc, est-ce que ça veut dire que ces champs-là, présentement, sont amplifiés ou modifiés ou...
Bien, quand tu as des grosses éruptions solaires, c'est sûr que ces réseaux-là, bien, vont être davantage en activation. Alors, c'est le moment quand on veut soit créer, soit faire un nettoyage. Les peuples anciens, bien, étaient en connexion avec les lunes, avec les éruptions solaires, avec les éclipses, parce qu'ils savaient qu'il y avait davantage une accélération, une amplification de ces réseaux-là. Alors, c'est là où il y avait davantage des rituels, des connexions avec différents peuples. Et ce qui est intéressant dans ces réseaux-là, quand on est sur des vortex, comme si on prend l'exemple d'Angleterre à Stonehenge, quand on est sur ce lieu-là, bien, en conscience, on peut se connecter à un autre lieu qui est sur Terre. On peut se connecter télépathiquement. C'est sûr que ça demande une certaine forme de pratique, une certaine forme de maîtrise à l'intérieur de soi, de sa propre énergie pour être en mesure de vraiment recevoir l'information de ce réseau-là, de cette énergie-là qui est là, parce que c'est des voies de communication. Et quand tu apprends à maîtriser cette énergie-là, bien, tu es en mesure de vraiment communiquer avec les êtres qui peuvent y être télépathiquement. Okay. Et à cette époque, ben, les ancêtres, c'est cela qu'ils faisaient. Ils communiquaient d'un sens qui était télépathique. Pour l'avoir expérimenté autant au Mont Shasta qui est en Californie aux États-Unis, c'est un site qui est très très haut vibratoirement, et m'avoir connecté à des êtres très anciens, des présences, des ancêtres qu'on peut appeler, parce que si on remarque dans les différents sites sacrés, autant qu'on appelle au Pérou, qu'on peut au Pérou, au Mont Machu Picchu, en Californie, à Stonehenge, on a en Égypte. Si on regarde, ils parlent tous d'ancêtres, les ancêtres. Et les ancêtres, ce ne sont pas nécessairement des êtres physiques, mais ce sont des consciences, ce sont des esprits qui sont venus apporter l'enseignement, partager. Alors, cette énergie-là, cette conscience-là existe encore dans ces lieux-là. Alors, quand nous, présentement, on va sur ces sites-là, bien, on est capable de se connecter par ces voies télépathiques, par notre centre énergétique qui se trouve à travers nos chakras, de recevoir ces belles énergies qui nous permettent de faire un nettoyage, de comprendre, de débloquer des blocages qu'on peut avoir générationnels, karmiques, par ces hautes vibrations. Et ces enseignements. Alors, il y a beaucoup de prises de conscience qui se font sur les êtres qui vont là. Est-ce que ça se fait
automatiquement ou on doit avoir l'intention de avant toute chose?
Je pourrais dire avec l'intention. C'est certain qu'il y a davantage une accélération qui peut se faire. Mais sans avoir d'intention, ce qui est prêt à être débloqué à l'intérieur de soi va se faire. Parce que quand on est dans un lieu où l'énergie elle est très, très, très haute, tout ce qui est de fréquence vibratoire qui est plus bas à l'intérieur de soi, automatiquement, bien, ça va s'élever, ça va monter. Alors, on est des êtres qui travaillons constamment sur soi. On est toujours en train de nettoyer, de libérer. On est toujours en train de faire un nettoyage qui est conscient et en même temps inconscient. Alors, quand on est sur le lieu, ben, on va faire ce nettoyage-là. Alors, il y a certaines parties de soi, certains blocages qui peuvent se débloquer inconsciemment. Mais quand on apporte une intention et qu'on veut faire une libération dans sa vie et qu'on va sur le site, bien c'est sûr qu'on est davantage ouvert. Mais chose qui est importante, quand on apporte une intention dans ces lieux-là, c'est important de ne pas apporter des intentions qui sont trop de type matériel. Mais c'est davantage des intentions qui sont sur une évolution personnelle. Alors, l'intention, je veux cette maison de telle couleur, telle forme, à tel endroit. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se matérialiser comme ça. Mais c'est des intentions à lesquelles je veux ouvrir mon cœur davantage à l'amour pour accueillir l'amour, débloquer ce qui me freine à avancer dans mes projets, dans ma réalisation de moi-même. Alors, c'est des intentions qui en sont plus de type général parce que bien souvent, ce que l'on veut n'est pas nécessairement ce qu'on donne, ce que l'on a de besoin. Alors, quand on est sur ces lieux-là, cette énergie-là, bien, elle est consciente. C'est une énergie que j'appelle une énergie très intelligente. C'est une énergie d'une super conscience, je pourrais dire, à laquelle que c'est, moi je les appelle les ancêtres parce que les ancêtres, bien, ils ont la connaissance, le savoir, la sagesse également. Alors quand on est sur ces lieux-là, bien c'est ainsi que on est baigné dans une forme d'énergie de connaissance, de savoir, de sagesse. Et c'est là que on vit cette transformation-là à l'intérieur de soi. C'est facile à dire, mais quand on est sur les lieux, il y a vraiment une transformation qui se fait à l'intérieur de soi. On le sent physiquement, énergétiquement, et c'est, comme on dit, il faut le vivre pour le croire. Oui,
effectivement. Moi, j'avais une intention quand je suis partie qui était celle de retrouver mon pouvoir, sortir d'une léthargie dans laquelle j'étais entrée depuis déjà un bon moment. Et l'objectif, c'est-à-dire, ben, je veux retrouver mon pouvoir pour manifester ma mission de vie, faire ce que j'ai à faire. Et c'est sur tous les sites que j'ai fait, parce que j'ai vu, bon, le Thor de Glastonbury, je suis allé à Avebury, à Stonehenge et tout ça, mais c'est vraiment à Avebury que j'ai ressenti physiquement. Alors que tout le monde a tendance à suivre les pierres et à s'intéresser aux pierres, et ça m'a fait comprendre, arrêtez de vous... Tu sais, si vous voulez écouter la TV, vous n'allez pas flatter l'antenne. Tu sais, vous allez connecter sa télé, puis j'ai été amené à un endroit autre où les gens n'allaient pas. Et quand je suis arrivé au centre de cet endroit-là, je me suis mis à étouffer, comme si l'air rentrait plus dans ma poitrine, au point où je me suis mis à genoux au sol. Et à partir de là, je me suis connecté à ça pour savoir qu'est-ce que ça me disait. J'ai eu un paquet de prises de conscience. Mais les changements, comme je disais, je les ai eus quand je suis revenu et que j'ai réalisé que ce pouvoir-là, paf, en claquant des doigts, il y a un paquet de choses que je trouvais pas la motivation de faire, que je me suis mis à faire, que je trouvais pas l'énergie ou que j'avais comme des contre-énergies qui me disaient, comme un mental qui me parle, oh non, laisse tomber, on fait pas ça. Tout ça était disparu. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai fouillé un peu, puis tu parlais des chakras. Tantôt, on me disait l'Angleterre, ça serait le chakra de la Terre. Pourrais-tu me nommer, mettons, les 6 autres? C'est quoi les 7 chakras et quels exactement? Puis là, on sait que, comme tu dis, il y en a plusieurs autres petits sur la planète. Mais les principaux, puis sont-ils gros ou petits? Parce que Stonehenge, c'est, bon, un rond. C'est peut-être le centre du chakra, mais il reste que... J'imagine qu'il radie plus large. Comment ça fonctionne exactement?
À la base, un chakra, oui, le chakra va émaner davantage sur une certaine distance, mais il y a le point central, le point culminant du chakra, là où ce que souvent les rituels pouvaient avoir lieu. Quand on fait des rituels, bien c'est une énergie qui est constamment de répétition et qui est dans une élévation. Dans le centre d'un chakra, bien, ça tourne tel un vortex en spirale. Alors, quand on est dans ce centre-là, bien, on se sent complètement aspiré, on se sent élevé et l'énergie, elle est tellement haute que ça en est extrêmement difficile pour le corps physique. C'est ainsi que le corps physique a de la difficulté à demeurer en place. Comme un peu tu as fait, tu t'es mis à genoux. Parfois, on peut même avoir des mal de cœur. On peut avoir des étourdissements parce que l'énergie, elle est très forte. Et comme l'énergie, elle est forte, bien, c'est ainsi que tout ce qui est pris à l'intérieur de soi veut monter en même temps. Alors, on peut vivre un paquet d'émotions, beaucoup de larmes, parfois même de la colère. Ça peut sortir de différentes manières. Et c'est là que ça se monte. Pour revenir à ta question, en fait, les chakras varient de chacun d'eux, viennent apporter quelque chose de différent et varient dans sa grosseur selon son environnement, selon qu'est-ce qu'elle vient faire. Le chakra, en fait, de Stonehenge, c'est le chakra où il va pas nécessairement être seulement dans la partie terrestre. Il y a une partie qui peut être enveloppée dans l'océan, dans la mer également. T'as pas seulement la partie terrestre. On pense souvent que un chakra, bien, ça va être sur Terre. Ben, tu as également dans l'eau, on a également dans l'environnement. On sait que l'élément de l'eau est un élément qui est extrêmement haut vibratoirement, extrêmement purifié.
J'imagine qu'il y a des vortex dans la mer aussi, je veux dire, dans l'eau, mais c'est juste qu'il n'y a pas de lieu sacré parce qu'il y a de l'eau puis l'être humain n'est pas capable d'y aller.
En fait, il y en a des vortex, oui, qui sont des vortex, des lieux sacrés qui sont importants. On parle du fameux triangle des Bermudes, mais en quelque sorte, c'est un lieu où ce que l'énergie, elle, est très forte, où ce que il y a vraiment, on pourrait dire, un grand vortex qui est là. Alors, il y en a plein, des différents vortex, différents lieux sacrés dans l'océan, mais à lequel... Oui, l'être humain n'y va pas, mais il faut dire que c'est les poissons, tous les êtres qui vivent dans l'eau, qui bénéficient de cela, et également l'environnement. Parce que souvent, on pense que les lieux sacrés, les vortex qui peuvent y être sur la Terre, bien, viennent contribuer seulement aux êtres humains. Mais en fait, ça contribue énormément à tout l'environnement de faune, de flore, de minéraux, végétal, tout l'environnement. Et nous, bien, nous en faisons partie. Mais c'est davantage, souvent, ils sont davantage présents pour permettre d'apporter...
Ils sont où les 7 principaux? J'imagine que la région des pyramides, c'en est un. Il doit y en avoir d'autres. On sait, bon, l'Amérique du Sud, mais est-ce que tu peux me nommer plus précisément les 7 principaux, là, les 7 chakras?
Oui. Entre autres, on a le chakra de la racine qui est, pour ceux, on va se repérer en même temps pour les chakras qui sont dans notre corps physique. Le chakra de la racine qui est le chakra de la base de notre corps, qui est situé au Mont Shasta aux États-Unis. Alors, le chakra de la racine, c'est vraiment travailler nos fondements, la base de nous-mêmes. Alors, quand on va sur ce chakra-là, au Manchasta, bien, ça va travailler nos fondements intérieurs, nos fondements autant qu'on peut avoir de notre ancrage, autant générationnel, autant karmique, mais autant nos fondements de notre être. Alors, sur ce lieu-là, bien, c'est cette énergie-là qui dégage dans tout l'environnement. Il faut dire que les chakras de la Terre, je vois ça comme des faisceaux sanguins. Alors, chaque chakra sont reliés ensemble tels des faisceaux sanguins. Et un bien va apporter à l'autre, l'autre va apporter à l'autre. Alors, on a le chakra de la racine qui est la base, qu'on appelle le chakra 1, qui est aux États-Unis, au Manchasta. Ensuite, on a le chakra sacré qui est sur notre corps, qui est relié, j'appelle en bas du nombril, le hara également, qui est au Pérou ou en Bolivie, en Amérique du Sud. Il est quand même très grand parce que il englobe davantage le lac Titicaca, le mont Machu Picchu. Alors, il est quand même très grand. On pense souvent que c'est au mont Machu Picchu que le centre de ce chakra est situé, mais davantage, il est près du lac Titicaca, que c'est là où c'est davantage le centre énergétique qui peut être. Alors là, ça va beaucoup être la partie sacrée, le chakra sacré qui est davantage le centre de on appelle de terre-mère, de la création. Chakra sacré, c'est beaucoup au niveau, on appelle de création de soi-même, mais création, autant c'est un enfantement, quand on crée un enfant, bien c'est une forme de création, création avec la terre. Alors, c'est beaucoup ce côté également féminin qui est relié à la terre. Alors, c'est un lieu extrêmement sacré. Et c'est pour ça qu'il y a autant eu de peuples et de civilisations qui sont sur ces sites-là de siècle après siècle et de millénaire après millénaire, parce qu'ils savent qu'ils sont alimentés de cette énergie-là pour venir les aider dans leur cheminement, mais également de prendre contact avec ces ancêtres qui sont là. Il faut dire que ces chakras-là sont très cosmique. Alors, ils prennent contact avec différents peuples cosmiques. Si on va sur tous les chakras qui existent, je vais continuer, bien, on a toujours la présence des êtres cosmiques qui sont là. Parce que c'est un point où ce qu'il y a on pourrait dire la fusion entre la communication entre les peuples terrestres et les peuples cosmiques qui se font. Alors, c'est vraiment des lieux qui sont très, très prisés pour ça. Ensuite, on a le plexus solaire qui est en Australie. Alors, encore là, c'est un endroit qui est très grand. On a le Urulu Taka Tuka, j'ai de la misère à le dire. Alors, c'est quand on
la
voit
montagne, le grand gros rocher rouge. Là.
Exactement. Le gros rocher en Australie, bien, c'est là qu'il se situe. Alors là, c'est au niveau du plexus solaire, qui est au niveau de l'expansion de soi. Le soleil, c'est vraiment la chaleur, la brillance, mais la transmutation également. Alors, si on voit le rocher, bien, il n'y a pas de végétal. Hein? Alors, c'est le désert, c'est chaud. Le rocher, il est rouge. Alors, veut pas, c'est vraiment cette partie-là, parce que c'est le plexus solaire qui est là. Et qu'encore aujourd'hui, ce lieu, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont près de ce chakra-là, près de cet environnement-là, qui continuent à maintenir ce rythme-là, cette énergie qui est pure. Là. Parce qu'il faut dire que chacun de ces chakras, faut entretenir l'énergie. Faut qu'elle soit entretenue pour que chacun de ces chakras puisse continuer à maintenir le réseau planétaire pour que l'équilibre puisse y en être. Alors, il y a des personnes sur Terre qui, je pourrais dire que leur mission, leur devoir qu'ils portent à l'intérieur d'eux, c'est de maintenir en santé l'énergie de ces chakras pour qu'il y ait un bienfait pour l'humanité, pour qu'il y ait un bienfait pour tout l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'il y a autant encore des peuples autochtones, on pourrait dire, dans différents pays qui tiennent à maintenir cet environnement-là sain, propre et que l'énergie puisse circuler. Ensuite, bien, on a Ashtonage en Angleterre qui est le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est tout ce qui est au niveau de l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur pour soi, mais l'ouverture également planétaire. Alors, quand on ouvre son cœur pour soi, bien, on permet d'aider les autres autour de soi également à ouvrir le leur, à faire tout ce travail-là. C'est également relié au niveau de Mère-Terre dans son ouverture. Alors, ce chakra-là, bien, il est quand même très gros parce qu'il empiète également dans l'eau. C'est pas seulement sur le territoire physique, mais il est également dans l'eau. Et donc, à lequel, quand tu es allé sur ce chakra-là, à Stonehenge, bien, c'est là que tu as travaillé, tu as élevé cette partie de ton cœur, tout ce qui pouvait te bloquer à l'expansion de toi-même, à aimer davantage la vie, à aimer davantage ton environnement, à retrouver l'émerveillement, la passion d'être toi, qu'on peut dire de la connexion avec tes parties plus divines de toi-même. Alors, c'est chacun des chakras bien, vient nous aider pas seulement dans la partie de comme pour toi d'amour relationnel, mais c'est davantage global. Alors quand on visite un chakra, bien l'impact est à long terme. À lequel je vais continuer sur les différents chakras, puis après ça je vais partager sur qu'est-ce que ça vient faire davantage sur soi dans son corps. Ensuite on a le chakra de la gorge qui est au niveau en fait qui est dans on va dire le Moyen-Orient. Le chakra de la gorge, c'est le chakra le plus grand en termes de grandeur et de territoire qu'il occupe. Alors, ce qui implique les grandes pyramides, Jérusalem, le mont Sinaï, le mont des Oliviers, qui implique différents pays qui en sont actuellement. Ce territoire-là, bien, vu que c'est le plus grand, c'est vraiment un qui est central. C'est un chakra, oui, de communication, de partage, de voix, où ce qu'à lequel, quand on dit qu'on communique, c'est pas seulement verbalement, mais c'est une communication qui est également psychique, télépathique avec les ancêtres. Il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a eu beaucoup de partages qui se sont faits à travers les milliers d'années. Alors, comme c'est un chakra qui se trouve à être l'un des plus grands, encore aujourd'hui, l'énergie, elle est très forte, elle est très puissante. Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'il y a autant, on pourrait dire, ce débalancement qui peut y être. Fait, comme l'énergie, elle est très puissante, ben on peut, les êtres qui sont là, les gens qui habitent là, peuvent utiliser cette force-là de manière positive comme de manière négative, toujours dans la voie de communication. Alors, ce qui fait en sorte que la communication au Moyen-Orient n'est pas celle qui est la plus fluide. Alors, ce qui fait que la communication est davantage dans une bataille, dans une guerre, mais qu'à laquelle, quand on va sur ces lieux-là en conscience et qu'on communique de manière dans l'harmonie, mais qu'on communique de manière télépathique. Quand on est, par exemple, les personnes qui vont en Égypte en tant que vous faire des voyages initiatiques et vont dans l'intention d'apporter une harmonie, dans l'intention d'apporter une énergie pour permettre de refaire circuler les énergies qui sont bloquées dans l'environnement, bien, va aider à la communication, va aider à remettre à niveau les énergies de ce chakra qui s'en sont bloquées. Alors là, l'importance, quand on fait des voyages de groupe, des voyages initiatiques, c'est pas seulement pour le plaisir de visiter, il y a toujours une partie très consciente, très spirituelle, mais pour l'environnement également. Alors, ce qui fait en sorte que ce chakra-là, comme il est très grand, il occupe une place très centrale au niveau également planétaire. Si on regarde la map du monde, on voit le Moyen-Orient, bien, il est davantage centré par rapport autant à l'Europe, par rapport à l'Asie, à l'Océanie, à l'Amérique. Alors, on voit qu'il est davantage dans le centre. Aujourd'hui, bien, ça implique davantage l'Égypte, on a Jérusalem, on a tous ces différents pays qui sont là. Je ne sais pas en mémoire présentement tous les pays qui sont autour, mais à lequel que c'est la voie de communication de la Terre. Alors, on sait que présentement sur Terre, la voie de communication, ce n'est pas...
Ouais, ça brasse un petit peu présentement.
Alors, même si, juste pour faire un petit point là-dessus, on n'est pas obligé de se rendre sur place pour permettre de contribuer au bienfait, pour permettre d'apporter des belles énergies, pour permettre de faire circuler l'énergie qui se trouve de ce chakra, on peut le faire à distance. Alors, si, par exemple, près de chez soi, on a un lieu qui est hautement vibratoire, on peut venir se connecter en conscience dans ce lieu hautement vibratoire et apporter l'intention dans cet environnement-là pour refaire circuler cette énergie originelle qui est de ce chakra-là pour faire aider, en fait. Parce qu'il faut dire que les chakras de la Terre sont reliés tels des faisceaux sanguins. Alors, tu as les faisceaux sanguins principaux, comme les grandes artères, mais en fait, tu as plein de petits faisceaux sanguins qui se relient aux grandes artères. Alors, si on se connecte à un vortex qui peut être près de chez soi, à un vortex par exemple, au Québec, il y en a plein, des grands vortex, on peut se connecter ces grands vortex-là qui peut, par cette voie télépathique de communication, venir se relier à cette grande artère principale.
D'ailleurs, ça va être ma prochaine question, là, lesquelles on a au Québec. On va juste terminer les deux derniers, qui est, je pense, le troisième œil.
Troisième œil et la couronne. J'ai tendance à passer...
c'est pas grave.
À sortir du sujet. Alors, pour le chakra du troisième œil, bien, à ce moment-là, le chakra du troisième œil, c'est un chakra qui est assez spécial parce que ce chakra-là, il est en mouvement. Il n'est pas nécessairement fixe dans un environnement précis, mais il est en mouvement et il se déplace. Je pourrais dire qu'il est davantage relié aux constellations astrologiques dont on le retrouve davantage dans la région plus de, on pourrait dire, de l'Asie, de Stonehenge également, qui se trouve dans cette région-là. Mais il n'est pas sur un lieu physique parce que ce chakra-là, on sait, le troisième œil, eh bien, c'est pour nous-mêmes, c'est une voie de communication télépathique. Alors, le chakra de la Terre, eh bien, c'est une voie de communication également avec les différentes énergies, les différents peuples, les différentes civilisations. Alors, il n'est pas fixe, mais elle bouge en fonction autant de l'astrologie, des astres, des lunes, du soleil, et est située davantage au niveau de l'Europe, qu'on peut appeler également une partie de la Scandinavie, une partie également de l'Angleterre.
Donc, il bouge dans ces régions-là.
Se retrouve dans... Okay. Exactement. Il bouge dans ces régions-là, et c'est pour ça qu'il n'est pas fixe en tant que tel. Ça, on va voir au niveau de la Scandinavie, les pays scandinaves, l'énergie elle est très, très, très haute. On parle des énergies celtiques, des vikings également, qu'on peut parler dans ces environnements-là. Alors, c'était très, très, très haut vibratoirement, et c'est là où ce chakra se situe. Et pour terminer, le chakra de la couronne, qui est au Tibet, en Inde, en fait, dans l'Himalaya, qui fait partie de la chaîne himalayenne, qui est chakra de la couronne, le chakra de connexion, à lequel on peut recevoir autant différentes informations, mais de connexion avec autant différents peuples, les connexions avec différentes civilisations, et que ce chakra-là est beaucoup relié à la lune, tout relié aux lunes, aux pleines lunes également. Alors, pour avoir été plusieurs fois dans l'Himalaya, c'est très, très, très spécial l'énergie qui se trouve. Quand on monte dans l'Himalaya, on sent automatiquement le chakra de la couronne s'ouvrir. C'est très, très, très fort la connexion qui peut y être. Quand on est physiquement sur place, on va le sentir dans le corps, l'endroit où ce que ça travaille, le chakra de la couronne, le chakra de la gorge. On peut parler du chakra du cœur. Bien, on va le sentir dans son corps qu'il y a vraiment une très grande expansion qui se fait.
Puis au Québec, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on en a quand même? Si on n'a pas de chakra, est-ce qu'on a des sous-vortex qui sont quand même assez puissants qu'on pourrait utiliser, que j'imagine les Autochtones à l'époque ont peut-être utilisé, que je sais maintenant que même l'Église catholique a utilisé pour bâtir certaines églises, des cathédrales, des basiliques, mais c'est pas quelque chose qui est ouvertement dit. C'est comme si c'était secret pour eux autres. Et pourquoi c'est secret? Là, ça fait plusieurs questions en même temps, là, mais...
Pour répondre à ta première question, au niveau des différents lieux qui existent au Québec, on en a plusieurs. Entre autres, un lieu qui est très reconnu, c'est en Gaspésie, le Mont Albert, qui est un mont dont l'énergie est très haute. Également, on a près de Montréal le Mont Saint-Hilaire. Oui. C'est un lieu très haut vibratoire. On a à Québec, sur l'île d'Orléans, on a l'église Saint-Pierre, qu'il y a un vortex très, très spécial qui passe dans l'église Saint-Pierre et qui est directement relié avec la cathédrale de Sainte-Anne.
La basilique Sainte-Anne. Oui. En quoi il est spécial?
Basilique. En fait, parce que tu as un réseau qui passe, un réseau sacré qui passe directement de la basilique à l'église Saint-Pierre et qui traverse, en fait, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qui fait en sorte que comme c'est un réseau qui est directement relié, on sent la force vibratoire, tu as des réseaux principaux et des réseaux secondaires et ce réseau-là, c'est un des réseaux principaux du Québec qui fait en sorte de faire circuler cette énergie sacrée, cette énergie hautement vibratoire. On a différents autres lieux, on a même dans les cantons de l'Est, de mémoire, je me souviens plus du mont exactement, mais
on est dans les cantons de l'Est. Ça se peut-tu?
Il y a mont Mégantic, oui, il y a en quelque sorte, et il y a également, c'est pas le mont Harford, là, mais il y a dans ces coins-là, okay. Là, dans les cantons de l'Est, là, de mémoire, là, je m'en souviens plus. Mais à lequel il y en a plusieurs. Beaucoup, beaucoup de sites amérindiens, amérindiens, et en faisait partie de lieux où ce que l'énergie elle était très, très, très forte. Alors, de même, les Amérindiens, les Autochtones utilisaient ces sites-là pour créer leur point de rencontre. Pour créer leur rituel également. Eux étaient très à l'écoute de ce lieu-là. Et à l'époque, il y a, on pourrait dire, les ancêtres, quand il était le temps de se tenter pour... quand ils étaient nomades et qu'ils se tentaient dans des lieux spécifiques, bien certes, ils allaient chercher des endroits où ce que l'énergie elle était la plus favorable pour eux. Il y en a différents, il y en a diverses. Je sais qu'il existe une carte du Québec dont on peut voir les différents réseaux sacrés. Si je me souviens bien de mémoire, c'est Québec K-E-B-E-C-K ou K-E-B-E-K où qu'on peut retrouver la map, la grille énergétique qui existe du Québec. Elle est quand même facile.
Fait que si je tape Google K-E-B-E-K, grille énergétique, je serais capable de trouver quelque chose là, sur Google.
Ouais, exactement là. J'ai juste pas fait la recherche avant, mais je sais que
j'ai. Pour ma question concernant l'Église catholique, parce que moi c'est quelque chose qui m'a fasciné, parce que si t'en parles à des prêtres, ils savent pas trop. J'ai l'impression que ça vient de gens plus élevés, puis comme si c'était caché. Puis d'ailleurs, la basilique Sainte-Anne, quand ils l'ont construit, à quelque part, ça fait pas de sens de construire une aussi grosse église dans un endroit où il y a personne et où, à l'époque, il y avait encore moins personne qui vivait là. Donc, vraiment, on voit que le site a été choisi pour une raison particulière.
Exact. Pour avoir fait une analyse géobiologique dans les la cathédrale, on peut on parle de cette cathédrale, mais c'est dans toutes les grandes majorités des églises et des cathédrales dont le lieu donc l'église est construite est traversée par un réseau et là où ce que l'hôtel va être construite, c'est l'endroit où ce qu'il y a le réseau, où est-ce qu'il passe, où est-ce qu'il est le plus fort. Alors, quand les prêtres construisaient leur hôtel sur ce réseau-là, alors veut, veut pas, ton énergie s'élève automatiquement. Tu deviens plus présent, c'est plus facile de communiquer. C'est plus facile de te sentir, je vais dire ce mot-là, de te sentir supérieur dans ton énergie et d'avoir cette facilité à dire aux autres quoi faire en quelque sorte. Alors, ce qui fait en sorte que dans une grande majorité des lieux, l'hôtel est situé dans le point culminant où ce que l'énergie est la plus forte.
Donc, avoir aussi des guérisons, parce qu'on sait que la basilique Sainte-Anne est reconnue pour, semble-t-il, certaines guérisons miraculeuses, un peu comme, c'est quoi, l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, si je me trompe pas, qui est pas justement situé dans le coin d'un mont. Le Mont-Royal ou...
Oui, et il y a également la Notre-Dame, si je me souviens bien aussi, là, à Montréal. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant à prendre conscience dans cela, c'est que, oui, il y a l'énergie qui est très forte. Et quand une énergie elle est très forte, qu'un réseau est présent dans une église, veut pas la fréquence vibratoire monte. Quand la fréquence vibratoire, elle est de plus en plus élevée, alors toutes on pourrait dire, les déséquilibres qu'il peut avoir dans notre corps, les petits bobos qu'il peut avoir dans notre corps, ben là, oups, il peut avoir une harmonisation qui peut se faire. Et ce qui fait en sorte que comme il y a eu des gens qui sont venus par centaines et par milliers, je pourrais dire, dans ce lieu-là, alors tout le monde arrivait avec la même intention, la même intention de guérison. Et comme cette intention-là de guérison, elle était constamment apportée par cette énergie vibratoire également qui est très haute là, alors ce qui fait en sorte que ça génère cette forme d'énergie de guérison là par l'intention des gens qui est amplifiée, ce qu'on peut appeler une forme d'égrégore. Un égrégore n'est pas négatif, elle peut être positive également, cette forme d'égrégore là. Alors c'est une répétition d'intention qui est émise sur un lieu qui est hautement vibratoire, ce qui fait en sorte d'amplifier les bienfaits. Alors sur les différents chakras de la terre dont on est donc j'ai parlé tout à l'heure, bien il y avait des rituels qui se faisaient. Et les rituels qui se faisaient, bien, on le dit, un rituel, bien, c'est des répétitions d'intention, de prière. Alors, ces répétitions-là font en sorte que, avec l'élévation d'énergie, bien, fait en sorte que ça se matérialise, que ça se crée. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rythme et de rythme qui s'est poursuivi d'années, d'années, de siècle en siècle et de milliers d'années en milliers d'années. Alors aujourd'hui, quand on va sur ces lieux-là, on est porté à faire la même chose parce qu'on rentre dans cette énergie-là de rituel. Et un rituel, ça tourne en rond, c'est circulaire, comme nos pensées. Nos pensées, quand elles reviennent, mais c'est de manière circulaire. Elles viennent, repartent, elles viennent, repartent, elles viennent, repartent. Alors, quand on fait un rythme, une intention, quand on fait des prières, des mantras, c'est la même chose, ça tourne de manière circulaire. Alors, quand on est appelé sur ces lieux-là, bien, automatiquement, parfois même sans rendre compte, on rentre dans ce rythme-là et on peut répéter les choses. On peut être
donc, on ne se connecte pas seulement à l'énergie du lieu, mais à l'énergie de toutes les personnes qui ont été en conscience dans ce lieu-là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc, on contribue nous autres aussi quand on y va, pour les générations futures, en quelque sorte.
Exactement. Comme je disais tout à l'heure, là, l'importance aussi de quand on fait des voyages initiatiques, des voyages de groupe qui est du spirituel, bien, on vient contribuer au lieu. On vient contribuer à maintenir cette énergie-là en santé. À maintenir le flux de circulation qui est saine. On peut créer un égrégore, mais de manière négative. Alors, comme cette énergie-là, ça fait des milliers d'années qu'elle existe, ce rituel-là, il existe d'apporter, par exemple, on va voir sur différents chakras, par exemple, on va voir au niveau... Je vais parler en Inde, vu que je suis allée quand même plusieurs fois en Inde. Alors, c'est le chakra de la couronne. Alors, comment de fois je faisais des rituels de mantras, répétitions, et qu'il y avait vraiment une ouverture qui se faisait, des connexions qui se faisaient davantage. Alors, plus qu'on va là sur ces lieux, en poursuivant cette énergie-là qui a déjà été ancrée là, bien, ça permet de maintenir en santé ce lieu, mais il faut prendre conscience aussi que les temps ont évolué. Alors, il ne faut pas rester pris dans cet ancrage-là de, oui, d'apporter ce rituel-là, mais d'apporter cette nouvelle énergie, cette nouvelle intention également. Exactement. Alors, il y a des milliers d'années, les peuples qui ont contribué à maintenir cette énergie par les mantras, par les rituels, étaient dans une certaine conscience, étaient dans un certain niveau de conscience. Et physiquement, dans la Terre, il n'y avait pas aussi cette technologie, cette évolution qui était là. Alors aujourd'hui, eh bien, on maintient encore ce mouvement-là d'énergie pour faire vivre ce chakra-là, aider à la connexion. Mais il faut dire que les énergies ont changé, la conscience a changé. Alors c'est important d'apporter notre nouveau, d'apporter ce que l'on est aujourd'hui, de pas rester pris dans des enfermements de rituels aussi, mais être davantage dans l'ouverture au changement.
Ouais, super intéressant. Moi, tout ça, ça me donne envie non seulement de refaire des voyages, mais possiblement même d'en organiser, de créer des groupes, former une intention pour qu'on puisse aller visiter ces choses-là. Oui, niveau touristique, c'est toujours le fun, mais pour aller y déposer notre intention aussi. En terminant, parce que le temps passe, si les gens veulent te rejoindre, poser des questions, te contacter, utiliser tes services, de quelle façon ils peuvent te rejoindre?
Oui, c'est possible d'aller sur mon site internet qui est www.mariejuliecahouette.com. J'ai toutes mes informations sur mon site, autant sur ce que je fais, sur mes analyses géobiologiques que je peux faire personnalisées, autant sur les rencontres de lecture de l'âme également que je propose. Également, pour me rejoindre, on peut avoir mon numéro de téléphone, qui est 418-515-07, ou bien sur ma page Facebook. Là, je l'ai dit rapidement, mais sinon,
déjà, on le trouver sur tous
mes sites. Exactement. Et il y en a sur ma page Facebook, qui est à mon nom, Marie-Julie Cahouette, et Marie-Julie Cahouette, accompagnatrice mieux-être. Alors, toutes les informations se trouvent sur ces différents sites, autant mon numéro de téléphone que mon adresse courriel. Alors, si vous êtes intéressé par en connaître davantage, j'offre des formations de géobiologie, des formations de géobiologie de base pour comprendre qu'est-ce que la géobiologie, parce que c'est très vaste la géobiologie. Formation de géobiologie sacrée également pour voir ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment une formation qui est très, très, très intéressante.
C'est intéressant à avoir. Moi, personnellement, j'ai fait faire la lecture de ma maison. J'ai apporté des ajustements parce qu'il n'y a pas que le côté sacré tellurique. Il y a tout l'impact de l'électricité qui passe, des réseaux, de l'électromagnétique et tout ça. C'est vraiment fascinant et j'ai pu modifier. Et juste pour dire aux gens... Ça fait 20 ans que je vis dans ma maison et pendant 15 ans, j'ai été incapable de faire pousser des plantes. Et pourtant, moi, j'ai le pouce vert, les gens qui voient mon jardin. Puis avant, je restais dans un demi-sous-sol où j'avais quelque chose comme 32 plantes. Ça poussait même s'il n'y avait pas de lumière et chez moi, j'étais incapable. Quand l'ajustement a été fait, du jour au lendemain, j'ai réussi à garder des plantes et à faire pousser des plantes et je comprenais pas pourquoi. Et semble-t-il que vraiment l'ajustement énergétique dans ça, les ondes électromagnétiques ont eu un impact. Donc, je vais en profiter aussi pour dire aux gens, s'ils connaissent des gens qui pourraient être intéressés par ce sujet-là, ben, de ne pas gêner à partager l'entrevue qu'on vient de faire, le partager sur leur réseau pour que d'autres personnes puissent en bénéficier et profiter de ces informations-là qui sont vraiment intéressantes parce que même si c'est de la subtilité, je peux vraiment, de mon expérience, valider que moi qui est très terre-à-terre, très Thomas, qu'il y a des résultats concrets qui se manifestent par la suite. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment. J'aime pas le côté un peu trop toujours flyé, mais qui donne pas de résultats. Si ça donne des résultats, moi, j'embarque, puis je suis vraiment heureux. Donc, je te remercie énormément de ton temps. On a fait quasiment une heure, 50 quelques minutes. Merci beaucoup de toute ta générosité puis toutes les informations que tu nous as données. Et puis, écoute, j'invite les gens à te contacter puis à partager cette entrevue-là.
Mais ça fait un grand plaisir. Merci de ton invitation. C'est une joie de partager ces informations-là. Quand je partage, mais c'est avec passion, avec amour également. Puis si, comme je dis, s'il y en a qui sont intéressés, bien, ça me fait plaisir de partager davantage qu'est-ce que j'offre comme service géobiologie. Également, ce que j'ai oublié de mentionner, dans mes services géobiologie, bien, moi, je me suis spécialisée beaucoup dans la géobiologie sacrée, mais également dans le feng shui. Alors, je suis très spécialisée dans le feng shui, toujours pour apporter une meilleure fluidité dans l'environnement et des réseaux dans l'environnement au niveau des meubles et de tout l'environnement. Alors, ça me fait plaisir d'en partager davantage.
Merci beaucoup, Marie-Julie. À la prochaine.
Merci à toi.
Je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là. Je te rappelle que tu peux le partager autour de toi. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi aller sur pascalbrousseau.com et à partir de là, ben, tu pourras communiquer avec moi. Sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.